Nostromo de Joseph Conrad, traduit par Philippe Néel. Première partie, l'argent de la mine. Chapitre 1. Au temps de la domination espagnole, et bien des années plus tard, la ville de Sulaco, dont la splendeur luxuriante des orangerais proclame l'antiquité, ne connaissait d'autre importance commerciale que celle d'un port de cabotage, doté d'un assez riche marché local de peaux de bœuf et d'indigo. Les lourds galions de haute mer des conquérants, dont la moindre évolution exigeait un fond frais, seraient restés immobiles sous les brises légères qui poussent bon train aux fins voiliers modernes, avec un simple battement de leur toile. Ils ne pouvaient aborder sous la côte à cause des calmes prédominants de son vaste golfe. Certains ports doivent à la présence sournoise de récifs sous-marins ou aux tempêtes de leurs côtes la difficulté de leur accès. Sulaco était demeuré un inviolable sanctuaire, protégé contre l'invasion du monde commercial par la paix solennelle et la profondeur de son golfe placido, énorme temple sans toit, ouvert en demi-cercle sur l'océan, entouré des murailles de ses hautes montagnes et drapé d'une funèbre tapisserie de nuages. Sur l'une des faces de cet immense amphithéâtre, rive toute droite de la République de Costaguana, le dernier éperon de la chaîne côtière forme un cap insignifiant nommé la Punta Mala. Du milieu du golfe, on n'aperçoit pas la pointe elle-même, mais on distingue, comme une ombre pâle détachée sur le ciel, l'épaulement d'une montagne à pic qui la domine dans le lointain. De l'autre côté, on peut voir au-dessus de l'horizon clair flotter légèrement une sorte de tache isolée de brume bleuâtre. C'est la presqu'île d'Asuera, chaos sauvage de roches déchiquetées et de plateaux pierreux, coupés de failles verticales. Détachée d'une côte verdoyante, elle allonge, très avant dans la mer, sa rude tête de pierre au bout d'un col effilé de sable couvert de misérables buissons épineux. Totalement dépourvue de sources, car l'eau de pluie y ruisselle aussitôt vers la mer, elle ne possède, semble-t-il, pas assez de terre végétale pour nourrir le moindre brin d'herbe. On dirait d'une terre infernale, et les pauvres, dont l'obscur besoin de consolation associe les idées de mal et de richesse, affirment qu'elle est maudite à cause de ses trésors cachés. Les habitants du voisinage, peons des estancias, vaqueros des plaines maritimes, indiens soumis qui font des milles pour apporter au marché une botte de canne à sucre ou un panier de maïs de 6 sous, tous ces gens savent que des monceaux d'or fauve dorment dans l'ombre profonde des précipices taillés dans le plateau pierreux de la Suera. La tradition rapporte qu'aux temps anciens, bien des aventuriers périrent pour s'être lancés à la recherche de ces trésors. Mais c'est une aventure plus récente que celle des 2 marins américains. Déserteurs sans doute, mais en tout cas vils étrangers et gringos de la dernière espèce, ils s'abouchèrent avec un propre arien, un mosso fainéant et joueur, pour voler un âne destiné à leur porter un fagot de bois sec, une outre d'eau et des provisions pour quelques jours. Ainsi équipés et revolvers à la ceinture, ils se frayèrent à coups de machette un chemin à travers les buissons épineux qui couvrent l'isthme de la presqu'île. Le lendemain de leur départ, on vit au soir, pour la première fois de mémoire d'homme, une colonne de fumée monter en tournoyant sur la tête de pierre et se détacher légèrement sur le ciel, au-dessus d'une crête en lame de couteau. Ce ne pouvait être qu'un feu allumé par les aventuriers. L'équipage d'une goélette, resté faute de vent en panne à 3 milles du rivage, regarda avec stupeur cette fumée jusqu'à la nuit. Un pêcheur nègre, qui habitait dans une crique voisine, une hutte solitaire, avait assisté au départ des 3 hommes et attendait de leur voir donner signe de vie. Il appela sa femme au coucher du soleil, et tous deux contemplèrent le prodige avec envie, incrédulité et terreur. C'est tout ce que l'on sut des aventuriers impies. On ne revit jamais les marins, l'Indien ni le bourreau volé. Pour le mosso, habitant de Sulaco, sa femme fit dire quelques messes. Le pauvre quadrupède, étant sans péché, put sans doute mourir en paix. Mais quant aux 2 gringos, victimes de leur fatal succès, on soupçonne leur spectre éternellement vivant de hanter encore le désert rocailleux. Leurs âmes ne peuvent se résoudre à quitter le corps commis à la garde des trésors déterrés. Ils souffrent pour toujours de la faim et de la soif à côté de leurs richesses, fantômes de gringos hérétiques, obstinés à souffrir les tortures de leur chair desséchée, là où des chrétiens auraient renoncé à leur convoitise pour obtenir leur pardon. Tels sont les habitants légendaires de la Suera. Gardiens de ces trésors maudits, et l'ombre légère détachée sur le ciel, d'un côté, la tache arrondie de brouillard bleuté qui, de l'autre, coupe le cercle brillant de l'horizon, marque les deux extrémités de l'immense feston, connu sous le nom de Golfo Placido, parce que jamais vent violent ne souffle sur ses eaux. En franchissant la ligne imaginaire tirée de la Suera à la Punta Mala, les vaisseaux d'Europe qui vont à Sulaco échappent brusquement à l'effet des fortes brises océaniques. Ils deviennent la proie des vents capricieux qui se jouent parfois d'eux pendant 30 heures de suite. Devant eux, le fond du paisible golfe est envahi, d'ordinaire, par une masse opaque de nuages immobiles. Par les rares matinées claires, une ombre nouvelle tombe sur la courbe du golfe. L'aube se lève très haut, derrière l'énorme mur crénelé de la cordillère, dont les pics sombres découpent hardiment leur profil sur le ciel et dominent de leurs pentes abruptes un piédestal altier de forêt, sorti du rivage même de la mer. Parmi eux, la tête blanche de l'Higuerota s'élève majestueusement dans l'azur. Des masses dénudées de roches énormes sèment de minuscules points noirs la nappe du dôme éclatant. Puis, vers midi, quand le soleil chasse du golfe l'ombre des montagnes, les nuages se mettent à rouler le long des plus basses vallées. Ils revêtent de leurs sombres haillons les rochers nus des précipices, passent sur les pentes boisées, masquent les pics et s'allongent entraînés sur les flancs de l'Higuerota. La cordillère a disparu, comme si elle s'était résolue en masses énormes de vapeurs grises et noires qui tombent lentement vers la mer pour s'évanouir dans l'air léger sous la chaleur torride du jour. L'avant-garde des nuages s'efforce, le plus souvent en vain, de gagner le milieu du golfe. Le soleil la mange peu à peu, comme disent les marins. Parfois pourtant, une sombre nuée d'orage se détache de la masse principale et parcourt l'étendue du golfe tout entier. Elle passe au-dessus de la Suera pour gagner le large, où elle éclate en grondements et en flammes, comme un sinistre pirate de l'air planant au-dessus de l'horizon, dans son combat furieux contre la mer. La nuit, la masse des nuages, qui s'élève plus haut dans le ciel, plonge toute l'étendue du golfe paisible dans une ombre impénétrable où l'on entend çà et là tomber brusquement et cesser de même de lourdes averses. Ces nuits opaques sont proverbiales, sur le grand continent, parmi les marins de la côte occidentale. Ciel, terre et mer semblent rayés du monde, quand, selon l'expression de là-bas, le Placido s'endort sous son poncho noir. Les rares étoiles, encore allumées au large sous la voûte de poix, brillent d'un éclat atténué, comme à l'entrée d'une caverne profonde. Dans cette immensité, les bateaux flottent invisibles sous les pieds des marins, les voiles battent au-dessus de leur tête dans une ombre impénétrable. L'œil de Dieu lui-même, disent-ils avec une sombre impiété, ne pourrait pas, dans cette obscurité, voir l'œuvre d'une main humaine, et l'on appellerait impunément le diable à son aide si sa malice n'était aussi mise en défaut par une telle nuit. Les rives du golfe sont partout abruptes. Les îles désertes qui se chauffent au soleil, vis-à-vis du port de Sulaco et à la limite même de l'écran des nuages, se nomment les Isabelles. Il y a la grande Isabelle, la petite Isabelle toute ronde, et Hermosa, la plus réduite des trois. Cette dernière n'a guère qu'un pied de haut, sur 7 pas de large. Elle représente la tête aplatie d'un rocher gris qui fume comme une cendre chaude après les averses, et où nul homme ne voudrait poser son pied nu avant le coucher du soleil. Sur la petite Isabelle, un vieux palmier déchiqueté au gros tronc ventru tout hérissé d'épines, véritable sorcier parmi les palmiers, fait frissonner, au-dessus du sable rude, un lugubre bouquet de feuilles desséchées. La grande Isabelle possède une source d'eau claire, sortie de la pente gazonnée d'un ravin. Elle affecte la forme d'un coin posé à plat sur la mer et déploie sur un mille sa verdure d'émeraude. Elle nourrit deux arbres, serrés l'un contre l'autre, qui projettent une nappe d'ombre au pied de leur tronc lisse. Un ravin, étendu sur toute la longueur de l'île, est semé de buissons. Fente étroite et creuse vers la rive abrupte, il se fait peu à peu moins profond jusqu'à l'autre bord pour aboutir à une petite plage sablonneuse. De cette grève, l'œil plonge dans le port de Sulaco, par une brèche taillée à 2000 environ, dans la courbe régulière de la côte, fente aussi nette que si elle était due à un coup de hache. Le port forme une nappe allongée en véritable lac. D'un côté, les courts éperons boisés et les torrents de la cordillère tombent à pic sur la berge. De l'autre, la vue s'étend sur la vaste plaine de Sulaco et se perd dans la mystérieuse brume d'opale des distances infinies. La ville de Sulaco elle-même, crête de murs, haute coupole, éclair de minarets blancs parmi les glorieux bouquets d'orangers, s'étend entre les montagnes et la plaine, et hors de vue de la mer. Chapitre 2. La seule marque d'activité commerciale qui apparut à l'intérieur du port, à l'observateur placé sur la grève de la Grande Isabelle, était l'extrémité massive et trapue d'une jetée de bois appartenant à la compagnie de navigation à vapeur de l'océan, plus connue sous le nom d'OSN, Oceanic Steam Navigation Company. Cette jetée avait été construite sur les bas-fonds de la baie lorsque la compagnie s'était décidée à faire de Sulaco l'un de ses ports d'escale pour la République du Costaguana. Cet État possède le long de ses côtes de nombreux ports, mais en dehors de Cayta, ville assez importante, ce ne sont guère, comme Esmeralda, à 60 000 au sud, que des passages étroits et dangereux, creusés dans une muraille de fer, ou de simples rades largement ouvertes, exposées au vent et rongées par le flot. Les conditions atmosphériques même, qui avaient écarté de Sulaco les flottes marchandes du passé, décidèrent sans doute la compagnie OSN à violer la paix du sanctuaire où s'abrite la calme existence de la ville. Les brises capricieuses et légères qui se jouent le plus souvent sur le vaste demi-cercle limité par la tête de la Suera ne pouvaient rien contre la puissance d'une excellente flotte à vapeur. Depuis des années, ces bateaux à coque noire longeaient la côte dans un sens ou dans l'autre, et passaient devant la Suera, les Isabelles ou la Punta Mala, sans autre souci que celui d'un horaire tyrannique. Leur nom, emprunté à la mythologie, était devenu familier sur des rives où ne régnèrent jamais les divinités de l'Olympe. La Junon était connue pour le confort de ses cabines de pont, le Saturne pour l'amabilité de son capitaine autant que pour le luxe de son salon peint et doré, tandis que le Ganymède, consacré surtout au transport du bétail, était redouté des voyageurs avisés. Sur la côte, le plus humble indien du plus obscur village connaissait le Cerbère, petit vapeur poussif et noireau, aussi dépourvu d'attraits que d'aménagements intérieurs, chargé de se glisser dans les criques boisées, entre les masses énormes de rochers sourcilleux, et de stopper avec obligeance devant le moindre groupe de huttes pour y récolter les marchandises. Il acceptait les plus infimes, jusqu'à des paquets de 3 livres de caoutchouc enveloppés dans une gaine d'herbes sèches. Et comme l'OSN n'égarait presque jamais le plus mince ballot, ne perdait guère de bœufs et n'avait honte que noyer un seul de ses passagers, on lui témoignait une pleine confiance. Les gens affirmaient que leur vie et leurs biens étaient plus en sécurité sur mer entre les mains de la compagnie que dans leur propre maison de la terre ferme. Le délégué de l'OSN, préposé à Sulaco au service de la République tout entière, était très fier du renom de sa compagnie. Il le justifiait par cet axiome souvent revenu sur ses lèvres, « Peu m'importe ce que peut faire Smith de son côté. » Ce Smith, qu'il n'avait de sa vie aperçu, était l'autre délégué de la compagnie, posté à quelque 1500 milles de là. « Ne me parlez pas de ce Smith, » disait-il. Puis, brusquement calmé, il écartait le sujet avec une négligence affectée. « Smith n'en sait pas plus long qu'un enfant sur ce continent. Ici, nous ne faisons pas de gaffe. » Désigné par les gens d'affaires et le monde officiel sous le vocable de « notre excellent Seigneur Mitchell » et par les capitaines de navires de la compagnie sous celui de « Joe l'Important », le capitaine Joseph Mitchell se targuait volontiers de connaître à fond hommes et choses du pays, Cosas de Costaguana. Au nombre de celles-ci, il rangeait, pour les déplorer comme fort nuisibles à l'activité régulière de sa compagnie, les changements innombrables de gouvernement imposés par des révolutions militaires. L'atmosphère politique de la République était en général orageuse à cette époque. Les patriotes fugitifs des partis vaincus avaient un talent singulier pour reparaître sur la côte avec un bateau à demi plein d'armes et de munitions. Le capitaine Mitchell s'émerveillait fort de cette ingéniosité, vu le dénuement complet de ces malheureux à l'heure de la défaite et de la fuite. Il avait remarqué, en effet, que ces gens-là ne semblaient jamais avoir assez d'argent en poche pour payer leurs billets et quitter le pays. Et il en parlait en connaissance de cause, car il avait eu l'honneur, en des circonstances mémorables, de sauver la vie d'un dictateur ainsi que celle de quelques personnages officiels, chefs politiques, directeur des douanes et maître de la police de Sulaco, qui faisait partie du gouvernement déchu. Le pauvre Señor Ribiera, c'était le nom du dictateur, avait, après la défaite de Socorro, couvert sans débrider, par des sentiers de montagne, une distance de 80 000, dans l'espoir de devancer la fatale nouvelle. Vaine attente d'ailleurs, irréalisable avec une mule boiteuse. L'animal était tombé, fourbu, au bout de l'Alameda, avenue où la musique militaire joue quelquefois le soir dans l'intervalle des révolutions. « Monsieur, poursuivait le capitaine Mitchell avec une gravité pompeuse, la fin malencontreuse de cette bête attira l'attention sur son infortuné cavalier, et il fut reconnu par des déserteurs de l'armée dictatoriale, mêlés à la bande de coquins qui s'amusaient à briser les vitres de l'intendance. » Les autorités locales de Sulaco avaient été ce jour-là, dès la première heure, chercher un refuge dans les bureaux de la compagnie OSN, située dans un bâtiment solide élevé au bout de la jetée, et avaient abandonné la ville au bon plaisir de la canaille révolutionnaire. Comme la loi sévère sur le recrutement, que la guerre l'avait contraint à édicter, avait valu au dictateur la haine de la populace, il courait gros risque d'être écharpé. Heureusement, Nostromo, un homme inappréciable, put accourir à la rescousse, à la tête de quelques terrassiers italiens, engagés pour les travaux du grand chemin de fer national, et réussit, au moins pour un temps, à le dégager et à le tirer d'affaire. Pour en finir, le capitaine Mitchell transporta ces messieurs dans son propre canot jusqu'à l'un des navires de la compagnie, la Minerve en l'espèce, qu'un heureux hasard avait amené au port à ce moment précis. Il dut les faire descendre à bout de corde par une brèche pratiquée dans le mur postérieur de l'édifice, tandis qu'au pied de la façade hurlait et bouillonnait la foule, sortie de la ville et amassée sur le rivage. Il leur fit parcourir au galop toute la longueur de la jetée, en un élan désespéré pour leur vie, et ce fut encore Nostromo, un gaillard entre mille, qui, à la tête cette fois des gabariers de la compagnie, défendit la jetée contre les assauts de la canaille. Sa résistance donna aux fugitifs le temps d'atteindre le canot qui les attendait au bout de la jetée, avec le drapeau de la compagnie déployé à l'arrière. Bâtons et pierres volaient en l'air. On lança aussi des couteaux, et des coups de feu retentirent. Le capitaine Mitchell exhibait volontiers, au-dessus de son oreille et de sa tempe gauche, une longue estafilade due à une lame de rasoir emmanchée au bout d'un bâton. « Arme très en faveur, expliquait-il, auprès de la sale engeance des nègres de ce pays. » Le capitaine Mitchell était un homme entre deux âges. Petit et replet, il portait des cols pointus très hauts et des favoris courts. Il montrait pour les gilets blancs un goût particulier, et sous une apparence de réserve sagace, faisait preuve d'une grande familiarité. « Ces messieurs, disait-il avec un regard solennel, ces messieurs durent courir comme des lapins. Moi aussi, d'ailleurs, je courais comme un lapin. Il y a des modes de mort très déplaisants pour un homme respectable. Il m'aurait mis en pièces aussi. Une foule en fureur ne fait pas de distinction, monsieur. C'est, après la Providence, mon capataz des cargadores, comme on l'appelait en ville, qui fut l'artisan de notre salut. Voilà un homme, monsieur, qui n'était, lorsque je jugeais de sa valeur, que second à bord d'un bateau italien, un gros bateau génois, l'un des rares bateaux d'Europe qui touchassent à Sulaco, avec une cargaison assortie, avant la construction du Grand Central. Il le quitta pour rester près d'amis qu'il s'était fait ici, des braves gens très honorables venus de son pays, mais plus encore, me semble-t-il, pour améliorer son sort. Je l'engageai comme capitaine de nos gabariers et surveillant de notre jetée, car je m'y connais assez bien en homme. C'était là tous ses titres, et pourtant, sans lui, le seigneur Ribiera eût été un homme mort. Ce Nostromo, monsieur, était un gaillard sans reproche, et devint la terreur de tous les voleurs de la ville. Nous étions infestés, à ce moment-là, infestés, monsieur, débordés par des ladrones et des matreros, voleurs et assassins de toute la province. Ils s'étaient, en cette circonstance, réunis à Sulaco pendant toute la semaine. Ils sentaient la curée, monsieur. La moitié des canailles, dans cette foule sanguinaire, étaient des bandits professionnels sortis du campo, mais il n'y en avait pas un seul qui n'eût entendu parler de Nostromo. Quant aux léperos de la ville, il leur suffisait d'apercevoir ses favoris noirs et ses dents blanches. Ils pâlissaient devant lui, monsieur. Voilà à quoi l'on arrive avec de la force de caractère. On pouvait affirmer sans exagération que c'était Nostromo seul qui avait sauvé la vie de ces messieurs. Le capitaine Mitchell, pourtant, ne les avait quittés qu'après les avoir vus s'effondrer, terrifiés, haletants, exaspérés mais saufs, sur les luxueux coussins de velours du salon des premières de la Minerve. Il avait eu soin, jusqu'au dernier moment, de ne s'adresser à l'ex-dictateur qu'en l'appelant « Votre Excellence ». Je ne pourrais pas faire autrement, monsieur. Le pauvre homme était à bout, livide comme un cadavre. Ce n'était plus qu'une plaie. La Minerve ne jeta pas l'ancre cette fois-là. Le délégué lui fit quitter le port sans retard. Il ne pouvait être question de décharger la cargaison, et les voyageurs pour Sulaco refusèrent bien entendu de débarquer. Ils entendaient la fusillade et assistaient aux combats livrés sur le rivage même. Repoussée, la foule avait tourné sa fureur contre le bâtiment des douanes, morne édifice à l'aspect inachevé et aux nombreuses fenêtres, situé à quelque 200 pas des bureaux de l'OSN. C'étaient les deux seules constructions à proximité du port. Le capitaine Mitchell ordonna au commandant de la Minerve de débarquer ces messieurs dans le premier port situé hors des limites de Costaguana, puis redescendit dans son canot pour veiller de son mieux sur les propriétés de la compagnie. Ces propriétés, comme celles du chemin de fer, furent défendues par les résidents européens, c'est-à-dire par le capitaine Mitchell lui-même et par les ingénieurs de la voie ferrée. Les ouvriers italiens et basques se rallièrent fidèlement autour de leurs chefs anglais, et quant aux cargadores de la compagnie, citoyens pourtant de la République, ils se comportèrent à merveille sous les ordres de leur capataz. Groupes douteux de sang mêlé, nègres pour la plupart, en lutte éternelle avec les autres clients des bouges de la ville, ils saisirent avec joie une occasion de régler leurs comptes sous d'aussi favorables auspices. Il n'y en avait pas un parmi eux qui n'eût un jour ou l'autre vu avec terreur le revolver de Nostromo braqué tout près de son visage, ou qui n'eût d'une façon quelconque été dompté par son énergique résolution. « C'était un rude homme, disait-il, de leur capataz, chef infatigable, trop méprisant pour se permettre jamais une injure, et d'autant plus redoutable qu'il restait plus distant. Et voici qu'aujourd'hui il se mettait à leur tête et condescendait à plaisanter avec l'un ou l'autre d'entre eux. On a du courage sous les ordres d'un tel homme, et en définitive, tout le mal que put faire la canaille fut de mettre le feu à un tas, à un seul tas de traverses de chemin de fer, dont le bois créosoté brûlait facilement. L'attaque principale, dirigée contre les chantiers de la voie, contre les bureaux de l'OSN, et surtout contre la douane, dont on savait les coffres garnis d'un gros trésor de lingots d'argent, échoua complètement. Le petit hôtel même, tenu par le vieux Giorgio, à mi-chemin du port et de la ville, échappa au pillage et à la destruction. Ce ne fut pas l'effet d'un miracle. Les bandits, trop occupés du trésor, avaient négligé d'abord la petite maison et ne trouvèrent plus ensuite l'occasion de s'attarder. Nostromo, avec ses cargadores, les serrait de trop près pour cela. Chapitre 3. On peut dire qu'en cette occurrence, il ne faisait que défendre son propre bien. Il avait été, de prime abord, admis à l'intimité de la famille par l'hôtelier, son compatriote. Jean Gioviola, génois à la tête broussailleuse et toute blanche de vieux lion, était souvent désigné sous le nom de Garibaldien, comme les Mahométans qui ont emprunté leur nom à leur prophète. C'était lui le « respectable ami marié », selon l'expression du capitaine Metzschon, dont les conseils avaient décidé Nostromo à quitter son navire pour tenter la chance sur la terre du Costaguana. Le vieillard, pénétré à l'endroit de la populace d'un mépris fréquent chez les républicains austères, avait dédaigné les signes avant-coureurs de l'émeute et continuait toute la matinée à vaquer en savate, selon sa coutume, aux soins de la casa. Il grommelait des paroles de mépris courroucées à l'adresse de mouvements qui n'avaient rien de politique et haussait les épaules. Aussi finit-il par se laisser surprendre par le soulèvement. Il était trop tard pour mettre sa famille à l'abri. Où d'ailleurs aurait-il pu, sur la vaste plaine, chercher un refuge avec la grosse signora Teresa et ses deux filles? Il barricada donc toutes les ouvertures de la maison et vint se poster farouchement, un vieux fusil sur les genoux, au milieu de la salle obscure du café. Sa femme restait à côté de lui, sur une autre chaise, et marmonnait de pieuses invocations à tous les saints du calendrier. Le vieux républicain ne croyait pas aux saints ni aux prières, ni à ce qu'il appelait la religion des prêtres. Ses dieux, à lui, c'était la liberté et Garibaldi. Mais il tolérait la superstition chez les femmes, et se contentait d'adopter en cette matière une attitude hautaine et silencieuse. Ses deux filles, dont l'aînée avait 14 ans et la seconde 12, restaient blotties sur le sol sablé, de chaque côté de la signora Teresa, la tête appuyée contre les genoux de leur mère. Épouvantées toutes deux, elles manifestaient leur crainte, chacune à sa façon, la brune Linda par son indignation rageuse, la blonde Gisèle, la cadette, par un effarement résigné. La padrona, écartant un instant les bras jetés autour du cou de ses filles, se signa en hâte et se tordit les mains en gémissant plus fort. « Oh, Gian Battista, pourquoi n'es-tu pas ici? Oh, pourquoi n'es-tu pas ici ?» Ce n'était pas le saint lui-même qu'elle invoquait, mais Nostromo, dont il était le patron. Immobile à côté d'elle sur sa chaise, Giorgio finit par s'irriter de ses appels et de ses reproches éperdus. « Paix, femme! À quoi bon gémir ainsi? Il est où son devoir l'appelle ? » murmura-t-il dans l'ombre. Mais Teresa expliquait violemment. « Et je n'ai pas de patience. Son devoir, n'a-t-il pas un devoir envers la femme qui fut comme une mère pour lui ? Ce matin même, je me suis mise à genoux à ses pieds et je l'ai supplié. Ne t'en va pas, Gian Battista. Reste dans cette maison, Battistino. Regarde ces deux innocentes. » Italienne aussi, et née à Spezia, Madame Viola, bien que notablement plus jeune que son mari, avait déjà un certain âge. Elle conservait pourtant de beaux traits, malgré son teint jauni par le climat de Sulaco, qui ne lui convenait guère. Elle possédait une voix de contralto puissant. Lorsqu'elle croisait les bras sur son ample poitrine, pour gronder les servantes chinoises au tronc court et aux jambes massives, occupées derrière la maison dans des huttes de boue, à étendre le linge, à plumer des poulets, ou à piler le blé dans les mortiers de bois, elle avait des notes si profondes, si vibrantes, si sépulcrales, que le chien de garde bondissait dans sa niche avec un grand bruit de chaîne. Louis, un mulâtre au teint de cannelle, à la moustache retroussée sur les lèvres épaisses et brunes, cessait de balayer la salle du café avec son balai de palme desséché et sentait un frisson lui courir dans le dos. Il gardait longtemps clos ses yeux langoureux et taillés en amande. Tout ce personnel de la Casa Viola s'était enfui de bon matin, au premier signe du tumulte, aimant mieux se cacher dans la plaine que se fier au mur de la maison. On ne pouvait les blâmer de cette préférence, car on disait partout, à tort ou à raison, que le garibaldien possédait un magot, caché dans le sol de terre de sa cuisine. Le chien, brute irritable et hirsute, aboyait violemment ou gémissait tour à tour dans la cour de derrière, bondissant dans sa niche ou en sortant en hâte, selon que l'y poussait la crainte ou la fureur. Comme des bouffées de vent sauvage sur la plaine, des explosions de cris faisaient rage ou s'apaisaient autour de la maison barricadée. Le bruit des coups de feu irréguliers dominait un instant celui des voix, puis il y avait des intervalles d'inexplicables trêves, et rien n'était plus joyeusement paisible que le jeu, sur le fond du café, des raies minces de soleil filtrées à travers les fentes des persiennes, par-dessus le désordre des chaises et des tables. Le vieux Giorgio avait choisi pour s'y réfugier cette pièce aux murs blanchis. Elle ne possédait qu'une fenêtre, et sa porte unique donnait sur la piste poussiéreuse et bordée de haies d'aloès qui reliait le port à la ville, où l'on entendait d'ordinaire gémir les lourdes charrettes tirées par les couples de bœufs lents sous la direction des bouviers à cheval. Durant un des intervalles de silence, Giorgio arma son fusil. Ce bruit significatif arracha un gémissement sourd à la femme qui se tenait toute raide à son côté. Une brusque explosion de cris de rage éclata tout près de la maison et s'éteignit soudain pour faire place à un murmure de grognements confus. On entendit derrière la porte la course éperdue et le souffle haletant d'un homme, puis des voix rauques et des pas près du mur, contre la persienne. Enfin, le frottement d'une épaule qui éteignit les raies brillantes de soleil semées sur toute la largeur de la pièce. Les bras de la signora Teresa resserrèrent convulsivement leur étreinte autour des fillettes agenouillées. Repoussée du bâtiment des douanes, la foule s'était divisée en plusieurs bandes et battait en retraite vers la ville, à travers la plaine. Des cris étouffés répondaient dans le lointain aux salves irrégulières assourdies par la distance. Quand le silence retombait, on entendait des coups de feu isolés, très faibles, et la vaste bâtisse blanche, écrasée sur la plaine, paraissait être, avec ses fenêtres closes, le point central d'une formidable tempête, acharnée autour de son silence mystérieux. Mais les mouvements circonspects et les chuchotements d'une bande en déroute, qui cherchait derrière la maison un abri momentané, peuplaient l'obscurité de la pièce, barrée de ses raies de paisible lumière, de bruits furtifs et inquiétants. Les violas sentaient ces sons pénétrer dans leurs oreilles, comme si un peuple de fantômes, planant autour de leurs chaises, avait agité en murmures étouffés la question de mettre le feu à cette casa d'étrangers. C'était une rude épreuve pour les nerfs. Le fusil à la main, le vieux Giorgio s'était levé lentement, très indécis, car il ne voyait pas le moyen de parer au désastre. La signora Teresa était éperdue de terreur. « Ah, le traître !» marmonnait-elle, d'une voix presque imperceptible. « Maintenant, on va nous griller !» Et je me suis agenouillé devant lui. « Mais il faut qu'il court sur les talons de ces Anglais !» Elle semblait croire que la seule présence de Nostromo dans la casa en aurait fait un lieu de sécurité, subissant ainsi l'ascendant magique de cette réputation qu'au bord de la mer et le long de la ligne de chemin de fer, le capataz des cargadores avait su se tailler auprès des Anglais et de la populace de Sulaco. En sa présence, et malgré le déplaisir de son mari, elle affectait d'en rire avec bonne humeur parfois, mais le plus souvent avec une singulière amertume, inconséquence déraisonnable de femme, comme ne manquait pas de la faire observer paisiblement Giorgio chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. Et ce jour-là, le fusil armé au genou et les yeux fixés sur la porte verrouillée, il se pencha vers sa femme pour lui chuchoter à l'oreille qu'en cette occurrence, Nostromo lui-même eût été impuissant. Qu'auraient pu faire deux hommes, enfermés dans une chambre, contre 20 bandits ou plus, acharnés à mettre le feu au toit de la maison? Cela n'empêchait pas Gian Battista de songer sans cesse à la casa, bien sûr. Lui, penser à la casa, lui, haleta Madame Viola d'un air égaré, puis frappant sa poitrine de ses mains ouvertes. « Je le connais, il ne pense qu'à lui-même. » Une salve de coups de feu, toute proche, lui fit rejeter la tête en arrière et fermer les yeux. Le vieux Giorgio serra les dents sous sa moustache blanche et roula des yeux féroces. Plusieurs balles vinrent à la fois s'écraser contre le coin du mur et l'on entendit des plâtras tomber au dehors. Une voix cria « Les voilà !» Et après un instant de silence angoissant, Des pas précipités retentirent derrière la porte. L'attitude du vieux Giorgio se relâcha, et un sourire méprisant détendit ses traits léonins de vieux guerrier. Ce n'étaient pas là des hommes luttant pour la justice, mais de vulgaires bandits. C'était une honte que de défendre même sa vie contre une telle canaille, pour un survivant des mille immortels, lancé sous les ordres de Garibaldi à la conquête de la Sicile. Il éprouvait un écrasant dédain pour cette insurrection de coquins et de léperos, ignorant du sens même du mot « liberté ». Il posa son vieux fusil sur le sol et tourna les yeux vers un portrait de Garibaldi, accroché au mur blanc dans un cadre noir. Une bande de lumière crue coupait perpendiculairement la chromolithographie, et les yeux du vieux soldat, accoutumés à la pénombre, contemplèrent le visage coloré, la chemise rouge, le dessin des larges épaules, la tache noire du chapeau de Versailles aux plumes de coq en panache. Celui-là était un héros immortel. Voilà la liberté qui ne donnait pas seulement la vie, mais l'immortalité. Son fanatisme n'avait à l'égard de cet homme unique subi aucune atteinte, et à l'instant où s'éloignait la menace du plus grand danger que sa famille eût couru sans doute au cours de toutes ses aventures, c'est vers le portrait de son vieux chef qu'il s'était tourné tout d'abord, pour ne poser qu'ensuite la main sur l'épaule de sa femme. Les fillettes, agenouillées sur le sol, n'avaient pas fait un mouvement. La signora Teresa entr'ouvrit les yeux comme au sortir d'un sommeil profond et sans rêve. Sans laisser à Viola le temps de prononcer, de son ton calme, des paroles rassurantes, elle bondit sur ses pieds, en serrant toujours les enfants accrochés à ses jupes, respira convulsivement et poussa un cri rauque. À ce moment, un coup violent frappé du dehors ébranla le contrevent. On entendit un hennissement et le bruit impatient des sabots d'un cheval, grattant le sol dur de l'étroit sentier qui menait à la route. Un nouveau coup, frappé du bout d'une botte à l'éperon cliquetant, heurta la persienne, tandis qu'une voix joyeuse appelait « Hola, hola, là-dedans !» Chapitre 4. Pendant toute la matinée et jusqu'au plus fort de la mêlée devant la douane, Nostromo avait de loin gardé les yeux fixés sur la Casa Viola. « Si je vois une fumée s'élever de ce côté, pensait-il, ils sont perdus. » Dès que la canaille fut dispersée, il poussa avec une poignée de travailleurs italiens dans la direction de l'hôtel. Aussi bien était-ce le plus court chemin pour regagner la ville. La bande de coquins qu'il poursuivait semblait vouloir s'embusquer derrière la maison, mais une salve tirée par les ouvriers, sous la protection d'une haie d'aloès, mit les bandits en fuite, et, juché sur sa jument en gris d'argent, Nostromo sauta par une brèche, ménagée dans la haie pour l'embranchement du port. Il poussa un grand cri, tira sur les fuyards un coup de revolver, et se lança au galop vers la fenêtre du café. Il pensait bien que le vieux Giorgio avait dû élire pour refuge cette partie de la maison. Le son étouffé de sa voix parvint aux oreilles des prisonniers. « Hola, Vecchio! Oh, Vecchio, tout va bien chez vous ?»« Tu vois, » murmura le vieux Giorgio à sa femme. La signora Teresa restait silencieuse et Nostromo riait au dehors. « Je vois que la padrona n'est pas morte. »« Ce n'est pas ta faute si je ne suis pas morte de peur, » cria la signora Teresa. Elle voulait en dire plus, mais la voix lui manqua. Linda leva les yeux vers le visage de sa mère, tandis que le vieux Giorgio disait en manière d'excuse « Elle est un peu démontée ». Et Nostromo, du dehors, avec un nouveau rire, « Au moins, elle ne me démontera pas, moi !» La signora Teresa retrouva la voix. « C'est bien ce que je dis. Tu n'as ni cœur ni conscience, Gian Battista. » Ils l'entendirent éperonner son cheval et s'éloigner de la fenêtre. La petite troupe bavardait avec animation, en italien et en espagnol, et les hommes s'excitaient à la poursuite. Nostromo se mit à leur tête en criant « Avanti !» Il n'est pas resté bien longtemps avec nous. Il n'y a pas ici d'étrangers pour l'admirer, fit d'un ton tragique la signora Teresa. « Avanti, oui, c'est son seul souci. Être le premier quelque part, n'importe où, le premier auprès de ces Anglais. Pour qu'on dise avec admiration à tout le monde, voilà notre Nostromo. » Elle eut un rire amer. Et ce nom, qu'est-ce que c'est qu'un nom pareil, Nostromo? Il lui fallait un nom qui n'eût pas de sens pour eux. Pendant ce temps, Viola avait tiré, avec des mouvements précis, les verrous de la porte. Un flot de lumière tomba sur Teresa et les deux fillettes, qui formaient en se serrant un groupe pittoresque de l'amour maternel exalté. Derrière elles éclatait la blancheur du mur, où brillaient dans le soleil les couleurs crues du portrait de Garibaldi. De la porte, Giorgio leva le bras vers cette image de son vieux chef, comme pour lui faire hommage de ses pensées rapides et imprécises. Même lorsqu'il faisait la cuisine pour les signori inglesi, les ingénieurs du chemin de fer, car c'était un fameux cuisinier, malgré l'obscurité de sa cuisine, il lui semblait rester sous l'œil du grand homme, qu'il avait conduit au combat devant les murs de Gaeta, lutte glorieuse où la tyrannie aurait à jamais succombé, sans la race maudite des Piémontais, race de rois et de ministres. Parfois, lorsque, au cours d'une préparation délicate, des oignons hachés prenaient feu dans sa poêle à frire, on voyait, au milieu d'un âcre nuage de fumée, le vieillard se précipiter vers la porte avec une toux et des jurons convulsifs. Il mêlait dans ses imprécations le nom de Cavour, misérable intrigant, vendu au roi et au tyran, à celui des servantes chinoises, et maudissait du même coup la cuisine et l'horrible pays où l'avait contrainte à vivre l'amour de la liberté étranglé par ce traître. Inquiète, la signora Teresa paraissait alors au seuil d'une autre porte. Elle inclinait son noble visage aux noirs sourcils et ouvrait les bras pour crier d'une voix profonde « Giorgio, homme passionné, misericordia divine, en plein soleil comme cela, il va se rendre malade !» Devant elle, les poules s'enfuyaient dans toutes les directions, à grandes enjambées. S'il y avait, de passage à Sulaco, des ingénieurs de la ligne, on voyait à l'autre bout de la maison un ou deux jeunes visages anglais paraître à la fenêtre du billard, tandis que du côté opposé, Louis, le mulâtre, se terrait avec précaution dans le café. Les servantes indiennes, en chemise simple et jupons courts, avaient un regard hébété sous la frange carrée de leurs cheveux, flottant comme une crinière noire. Puis le grésillement s'apaisait. La fumée grasse montait dans le soleil, et sous la chaleur lourde, une odeur forte d'oignons brûlés flottait autour de la maison. L'œil se perdait sur la vaste étendue de la prairie aplatie vers l'occident, comme si la plaine, comprise entre la Sierra qui dominait Sulaco et la chaîne lointaine d'Esmeralda, avait représenté la moitié du monde. Après un instant d'émouvant silence, la signora Teresa éclatait en reproches. « Eh, Giorgio ! » criait-elle. « Laisse donc Cavour tranquille et songe un peu à toi, puisque ta manie à ne vouloir pas vivre sous un roi nous a amenés dans ce pays maudit. » Et tout en le regardant, elle portait parfois vivement la main à son côté, avec une crispation rapide des lèvres et un froncement des sourcils noirs et droits, palpitation rageuse de peine ou pensée de colère reflétée sur ses traits réguliers et nobles. C'était un signe de douleur, d'une souffrance dont elle contenait les élancements. Cela lui était venu, pour la première fois, peu de temps après l'installation de la famille à Sulaco. Ils avaient quitté l'Italie pour émigrer en Amérique et errer de côté et d'autre, tenant dans diverses villes de petits commerces, tentant même une fois à Maldonado d'organiser une entreprise de pêche, car Giorgio, comme le grand Garibaldi, avait été marin en son temps. Parfois la patience manquait à Teresa pour supporter sa souffrance, cette souffrance rongeante qui avait, pendant des années, fait partie de son horizon, et qu'elle retrouvait dans le port lumineux sous les cimes boisées des montagnes. La lumière même lui paraissait lourde et triste, lourde de souffrance. Ce n'était plus le soleil de sa jeunesse, au temps où Giorgio, déjà mûr, lui faisait sur les rives du golfe de Spezia une cour grave et passionnée. « Rentre tout de suite, Giorgio » cria-t-elle. « On dirait que tu ne veux pas avoir pitié de nous, et songer à la peine que je me donne pour ces quatre signori inglesi. »«
Va bene, » grommelait Giorgio.
Et il obéissait. Les signori inglesi allaient demander leur déjeuner. Il avait fait partie de la phalange immortelle et invincible des libérateurs, devant qui fuyaient les mercenaires de la tyrannie, comme des fétus de paille devant un ouragan, un uragano terribile. Mais cela, c'était avant d'être mari et père, avant aussi que l'appui des traîtres qui avaient emprisonné Garibaldi, son héros, n'eût permis à la tyrannie de redresser la tête. Il y avait trois portes à la façade de la maison, et chaque après-midi, le garibaldien se reposait devant l'une d'elles. Bras et jambes croisés, il appuyait contre le linteau sa tête léonine à la blanche chevelure broussailleuse, et levait les yeux vers les pentes boisées qui dévalaient au pied du dôme neigeux de l'Higuerota. Le mur de la casa projetait un rectangle allongé d'ombre, lentement élargi, sur la piste sablonneuse des convois de bœufs. Par les brèches taillées dans les haies de laurier rose, on voyait, à 60 pas de la maison, la courbe de l'embranchement du port. Provisoirement posés sur la surface même de la plaine, ces rubans parallèles d'acier brillaient au milieu d'une herbe pelée et poussiéreuse. Au soir, les trains de marchandises, tirant à vide leurs fils de wagons plats, contournaient, avec une ondulation légère, la masse vert sombre du bois de Sulaco. Ils lançaient au-dessus de la plaine leurs panaches de vapeur blanche et passaient tout près de la Casa Viola pour regagner les chantiers du port. Debout sur les plateformes, les employés italiens saluaient leurs compatriotes au passage d'un geste de la main levée, tandis que les nègres commis au maniement des freins restaient négligemment assis et regardaient droit devant eux en laissant flotter au vent les bords de leurs grands chapeaux. Giorgio répondait au salut, sans bouger les bras, d'un léger mouvement de tête de côté. Mais en ce jour mémorable d'émeute, il n'avait pas les bras croisés sur la poitrine. Sa main se crispait sur le canon du fusil, dont il posait la crosse à terre. Pas une seule fois ses yeux ne se portèrent vers le dôme blanc de l'Higuerota, dont la pureté froide semblait planer bien au-dessus de la plaine trop chaude. Il contemplait curieusement la prairie où flottaient çà et là de grandes traînées de poussière. Dans un ciel sans nuages, le soleil dardait ses rayons clairs et aveuglants. Des groupes couraient éperdument, d'autres s'arrêtaient courts, et par bouffées crépitaient dans l'air ardent et immobile les détonations des armes à feu. Des hommes isolés se poursuivaient avec fureur. Des cavaliers galopaient l'un vers l'autre pour tourner bride ensemble et s'enfuir à grand train. Giorgio assista à la chute d'un cavalier et de son cheval qui disparurent comme si un gouffre se fût ouvert sous leurs pas. Tous les mouvements de cette scène rapide semblaient les péripéties d'une pièce violente, jouée sur la plaine par des nains à pied ou à cheval, et criant de toute la force de leur gorge minuscule en face de la montagne, personnification colossale du silence. Giorgio n'avait jamais vu une vie si active sur cette scène, dont son regard ne pouvait embrasser d'un coup tous les détails. Il s'abritait les yeux avec la main, lorsqu'un bruit de tonnerre tout proche le fit brusquement tressaillir. Une troupe de chevaux avait crevé les haies des enclos de la compagnie. Ils passèrent comme un tourbillon bariolé et sautèrent par-dessus la ligne avec des hennissements, des cris et des ruades, masses compactes et mouvantes de dos brun, baies ou gris, yeux dilatés, cou tendus, rouges naseaux et longues queues flottantes. À peine eurent-ils bondi sur la route qu'un nuage épais de poussière vola sous leurs pieds, et à 6 pas à peine de Giorgio, une masse noire roula, confusément formée de croupes et de coups, et fit trembler le sol sur son passage. Viola toussa, détourna son visage de la poussière, et hocha doucement la tête. « Il faudra faire la chasse aux chevaux avant la nuit, » murmura-t-il. Dans le carré de lumière tombé par la porte, la signora Teresa, à genoux devant sa chaise, avait appuyé sur ses mains sa tête alourdie par la masse d'ébène de ses cheveux striés de fils d'argent. Le châle de dentelle noire qu'elle drapait d'ordinaire autour de son visage était tombé près d'elle sur le sol. Les deux fillettes s'étaient levées et restaient debout, la main dans la main, en jupe courte, les cheveux dénoués et tombant en désordre. La cadette tenait son bras sur ses yeux, comme si elle avait eu peur de la lumière. Linda regardait tout droit, sans crainte, une main posée sur l'épaule de sa sœur. Viola contemplait ses enfants. Le soleil creusait les plis de son visage, accentuant l'expression énergique de ses traits, qui gardaient une immobilité de bronze. Il était impossible de lire ses pensées. Des épais sourcils gris, une ombre tombait sur ses yeux noirs. « Eh bien, vous ne priez pas, comme votre mère ?» Linda fit une moue qui plissa ses lèvres rouges, presque trop rouges même. Mais elle avait d'admirables yeux, des yeux bruns à l'iris pailleté d'or, des yeux pleins d'intelligence et de vie, si clairs qu'ils paraissaient illuminer son visage mince et sans couleur. Il y avait des reflets de bronze dans la masse sombre de ses cheveux, et ses longs cils, noirs comme du jais, accentuaient encore la pâleur de son teint. « Mère va faire brûler un paquet de cierges à l'église, comme chaque fois que Nostromo est parti se battre au loin. Elle m'en fera porter à la cathédrale, dans la chapelle de la Madone. » Elle parlait rapidement, avec assurance, d'une voix ferme et pénétrante. Elle ajouta, en secouant légèrement l'épaule de sa sœur, « On lui en fera porter aussi. » « Il faudra donc la forcer ? Pourquoi cela ?» demanda gravement Giorgio. « Est-ce qu'elle ne veut pas les porter ?»« Elle est timide, » fit Linda avec un léger rire. « Les passants regardent ses cheveux blonds quand elle sort avec nous et crient derrière elle « Regardez la rubia, regardez la rubiacita !» Ils l'interpellent dans la rue et cela lui fait peur. « Et toi, tu n'es pas timide, hein ?» fit lentement le père. « Personne ne m'interpelle dans la rue. » Le vieux Giorgio regardait pensivement ses enfants. Il y avait 2 ans de différence entre les 2 fillettes qui lui étaient nées sur le tard, des années après la mort de son fils. Ce fils, s'il avait vécu, aurait eu à peu près l'âge de Gian Battista, celui que les Anglais appelaient Nostromo. Son caractère sombre, son âge avancé et la tyrannie des souvenirs avaient empêché le garibaldien de prêter grande attention à ses filles. Il les aimait, certes, mais les filles appartiennent surtout à leur mère, et il avait donné le meilleur de son cœur au culte et au service de la liberté. Dans sa prime jeunesse, il avait, à La Plata, déserté un bateau de commerce pour s'engager dans la flotte de Montevideo, alors sous les ordres de Garibaldi. Plus tard, dans la Légion italienne de la République, dressée contre la tyrannie usurpatrice de Rosas, il avait pris part, sur d'énormes plaines, au bord de rivières immenses, à des luttes sanglantes, les plus rudes peut-être que le monde eût jamais connues. Il avait vécu dans la compagnie d'hommes qui prenaient feu pour la liberté, souffraient pour la liberté, mouraient pour la liberté, avec une ferveur exaltée, les yeux toujours tournés vers leur Italie opprimée. Son propre enthousiasme s'était échauffé au spectacle des scènes de carnage et des sublimes dévouements dans le bruit des armes entrechoquées et le feu des proclamations ardentes. Il n'avait jamais quitté le chef de son choix, le fougueux apôtre de l'indépendance, restant à ses côtés en Amérique et en Italie, jusqu'au jour néfaste d'Aspromonte, où s'était révélée au monde la traîtrise des rois, des empereurs et des ministres. Ils avaient blessé et emprisonné son héros, et cette catastrophe lui avait inspiré le doute douloureux d'arriver jamais à comprendre les voies de la justice divine. Il ne la niait pas, cependant. Il fallait de la patience, disait-il. Sa haine pour les prêtres et son refus obstiné de mettre jamais les pieds dans une église ne l'empêchaient pas de croire en Dieu. Les proclamations contre les tyrans ne parlaient-elles pas au peuple au nom de Dieu et de la liberté ? Dieu pour les hommes et la religion pour les femmes, murmurait-il parfois. En Sicile, un Anglais, débarqué à Palerme, après l'évacuation de la ville par l'armée royale, lui avait donné une Bible italienne, gros livre relié en cuir sombre, édité par la Société biblique pour l'Angleterre et l'étranger. Au temps de détresse politique, dans les intervalles de silence où les révolutionnaires ne lançaient plus de proclamations, Giorgio, qui gagnait sa vie en exerçant tous les métiers, tour à tour marin, débardeur sur les quais de Gênes, voire ouvrier de ferme dans les collines de Spezia, Giorgio, à ses moments perdus, lisait le lourd volume. Il l'avait emporté dans ses combats, et c'était devenu maintenant sa seule lecture. Pour n'en pas être privé, il avait accepté, vu l'exiguïté des caractères, une paire de lunettes à monture d'argent que lui avait offerte la signora Emilia Gould. C'était la seule Anglaise de Sulaco, la femme d'un Anglais qui exploitait la mine d'argent, située dans les montagnes à 3 lieues de la ville. Giorgio Viola avait pour les Anglais une grande considération. Ce sentiment, né sur les champs de bataille de l'Uruguay, datait de 40 ans au moins. Il avait vu beaucoup d'entre eux en Amérique verser leur sang pour la liberté, et le premier dont il eut gardé le souvenir, un nommé Samuel, qui commandait sous les ordres de Garibaldi une compagnie de nègres pendant le fameux siège de Montevideo, avait trouvé avec ses nègres une mort héroïque au passage de la Boyane. Giorgio, lui, avait conquis le grade d'enseigne, d'alférez, et avait fait la cuisine pour le général. Plus tard, en Italie, faisant partie en qualité de lieutenant de l'état-major, il continuait à faire la cuisine pour le général. Il lui avait servi de cuisinier en Lombardie tout au long de l'expédition. Pendant la marche sur Rome, il attrapait au lasso les bœufs de la campagne, à la mode américaine. Blessé dans la défense de la République romaine, il avait été l'un des quatre fugitifs qui, au sortir des bois, avaient emporté avec le général le corps inanimé de sa compagne jusqu'à la ferme où elle était morte, épuisée par les rigueurs de cette terrible retraite. Après cette époque désastreuse, il avait accompagné son général à Palerme, où pleuvaient les obus napolitains lancés par les batteries du château. Il lui avait fait la cuisine dans la plaine de Volturno, au soir d'un combat qui avait duré tout le jour. Et partout, au premier rang des années de la liberté, il avait vu des Anglais. Ils respectaient leur nation parce qu'elle aimait Garibaldi. Ne disait-on pas que leur comtesse et leur princesse même avaient baisé les mains du général lors de son voyage à Londres? Et il n'avait nulle peine à le croire, car c'était une nation généreuse, et l'homme était un saint. Il suffisait de regarder une fois son visage pour y lire la force divine de la foi et l'immense pitié pour tout ce qu'il y avait de pauvre, de souffrant et d'opprimé dans le monde. L'esprit de sacrifice, l'absolu dévouement au grand idéal humanitaire qui avait inspiré les pensées et les luttes de cette période révolutionnaire, avait laissé dans le cœur de Giorgio une sorte de mépris austère pour les intérêts personnels. Cet homme, que la basse plèbe de Sulaco soupçonnait de garder un trésor caché dans sa cuisine, avait toute sa vie méprisé l'argent. Les chefs de sa jeunesse étaient morts pauvres, comme ils avaient vécu pauvres. Il avait pris l'habitude de ne pas se soucier du lendemain, habitude créée en partie par une existence errante d'aventures et de folles équipées, mais résultant plus encore de ses idées généreuses. Ce n'était pas l'insouciance d'un condottiere, c'était une espèce de puritanisme, fruit d'un enthousiasme austère, au même titre que le puritanisme religieux. Ce dévouement total à une cause avait assombri la vieillesse de Giorgio, attristé de voir que la cause semblait perdue. Il y avait encore trop de rois et d'empereurs triomphants dans un monde que Dieu avait fait pour le peuple. C'est son ingénuité qui lui valait cette tristesse. Toujours prêt à venir en aide à ses compatriotes, et hautement respecté partout où il avait vécu, dans son exil, comme il disait, par les émigrants italiens, il ne pouvait pourtant se dissimuler l'indifférence de tous ces gens pour les souffrances des nations opprimées. Ils écoutaient avec plaisir ses récits de guerre, mais semblaient se demander ce qu'en définitive il en avait retiré. Rien, certes, d'apparent. Mais nous ne voulions rien. Nous souffrions pour l'amour de l'humanité, criait parfois furieusement le vieillard, dont la voix puissante, les yeux étincelants, la crinière blanche agitée, la main brune et nerveuse levée comme pour prendre le ciel à témoin, impressionnait les auditeurs. Puis le garibaldien se calmait tout à coup, avec un brusque hochement de tête et un geste du bras qui signifiait clairement « À quoi bon leur parler de tout cela ?» tandis que les autres se poussaient du coude. Il y avait chez le vieux Giorgio une énergie de sentiment, une puissance personnelle de conviction, un quelque chose qu'ils appelaient « terribilità ». « C'est un vieux lion », disait-on de lui. Un incident futile, une parole surprise, l'amenait à Maldonado à haranguer sur la grève les pêcheurs italiens. Plus tard, dans sa petite boutique de Valparaiso, les clients de son pays. Enfin, le soir, dans son café, situé au bout de la casa, l'autre partie était réservée aux ingénieurs anglais, il discourait devant la clientèle choisie des mécaniciens et des contremaîtres du chemin de fer. Avec leurs visages réguliers, maigres et bronzés, leurs noirs cheveux bouclés, leurs yeux brillants, leurs poitrines larges, leurs barbes fournies et leurs oreilles ornées parfois d'un minuscule anneau d'or, ces patriciens du chemin de fer laissaient pour l'écouter cartes et dominos. Un basque blond, près d'eux, continuait à étudier son jeu et attendait sans récriminer. Nul costaguanien n'était admis dans ce fief des Italiens. Les policiers de Sulaco eux-mêmes modéraient aux approches de l'hôtel l'allure de leurs chevaux et se penchait très bas sur la selle pour jeter à travers la fenêtre un regard furtif sur les visages noyés dans la fumée. Le bourdonnement de la voix du vieux Giorgio semblait les poursuivre et mourir derrière eux sur la plaine. En de rares occasions, le sous-chef de la police, un petit monsieur brun, très métissé d'Indien, montrait dans le café son large visage. Il laissait au dehors son planton pour tenir les chevaux et s'avançait sans un mot vers la grande table, un sourire avantageux et sournois aux lèvres. Il désignait une bouteille sur le rayon et Giorgio mettait brusquement sa pipe dans sa bouche pour le servir lui-même. On n'entendait qu'un discret cliquetis d'éperon. L'homme vidait son verre, jetait un long regard scrutateur tout autour de la pièce et sortait de la casa pour achever sa ronde et regagner la ville.